9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bienvenue sur Europe 1, merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question avec vous. Rendez-vous quotidien, bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Alors que la pression fiscale et le pouvoir d'achat sont au cœur des débats, alors que les centres des impôts sont les cibles de toutes les colères, notre antenne se mobilise toute la journée pour répondre à vos questions sur la pression fiscale, sur la réforme aussi de l'impôt à la source qui entre en vigueur dans 25 jours exactement, le 1er janvier prochain. Quelques jours donc pour mieux comprendre encore la petite révolution, s'il y en a une en tout cas psychologique qui s'annonce avec une feuille de paix qui va s'en trouver fatalement modifié. Quelle est la vertu de cette réforme? Nos invités vont répondre à vos interrogations. Si vous êtes retraité, si vous êtes artisan, salarié, profession libérale, n'hésitez pas à nous appeler. Nos économistes et experts comptables sont mobilisés pour vous. Le standard est ouvert, Julie.
C'est le 39-21, 50 centimes la minute. Vous appelez et on vous rappelle. Il y a aussi pour les réseaux sociaux le hashtag Europe 1.
Et puis à 10h, on va rendre hommage à Johnny. Un an après sa disparition, Fabien Lecoeuvre, l'un de ses biographes et l'ami d'une vie, Michel Drucker, seront avec nous pour rappeler la puissance de ses chansons, de l'idole des jeunes à son dernier disque. Quel esprit Johnny souffle encore sur la France, alors que dimanche, une grande messe s'organise à la Madeleine en son honneur. Vous êtes fan, là encore, n'hésitez pas à réagir. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, Laurent Benoudis, président de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être là mobilisé pour répondre aux questions des auditeurs depuis 7h ce matin. Et avec Emmanuel Lechypre, économiste de formation et directeur de l'Observatoire BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors vous avez sous les yeux, messieurs, la une du Parisien, ce grand dossier avec les centres des impôts qui sont pris pour cible depuis quelques jours maintenant, dans le Puy-de-Dôme, dans le Vaucluse, en Haute-Vienne, dans le Lot. Le consentement des Français à l'impôt est une vaste question et dans ces périodes extrêmement tourmentées, alors que la pression fiscale est aussi au cœur des réflexions, Emmanuel Lechypre, parler de l'impôt aujourd'hui est un sujet qui devient presque tabou.
Oui, parce qu'il y a un moment où toute la pression et le mécontentement accumulé explose. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le fruit de 30 ans de tendances lourdes et qui finalement se cristallise aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes. La première tendance, c'est effectivement le niveau de fiscalité. Hein, les Français payent de plus en plus d'impôts. On a vu hier qu'on était les champions du monde quasiment du prélèvement fiscal. Et le coup de matraque fiscal, rappelons-le, le vrai coup dur, c'est le dernier budget du gouvernement Fillon. Et c'est les deux premières années de François Hollande avec Jean-Marc Ayrault. Là, les Français prennent un gros coup sur la tête, et notamment cette classe moyenne. La deuxième question, c'est cette hausse des impôts, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'au moment où les Français voient augmenter la pression fiscale, ils constatent tous les jours la dégradation du service public. La réalité, c'est qu'on est moins bien soigné qu'il y a 20 ans. Quand je dis qu'on est moins bien soigné, c'est-à-dire que ce n'est pas la qualité des plateaux techniques, c'est qu'il y a de moins en moins de Français qui ont accès à des soins de qualité. Vous êtes moins bien éduqué qu'il y a 20 ans, vous êtes moins bien protégé, vous êtes moins bien jugé, etc. etc. Parce qu'il y a une paupérisation du service public. Et en même temps, on a un niveau aussi de dépenses publiques très élevé. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre. C'est que la qualité du service public, quand vous voyez les pauvres infirmières, les pauvres policiers avec leurs voitures pourries, les enseignants qui ont du mal, et où est-ce que passe l'argent?
Alors, est-ce que cet argent passe l'argent en particulier dans le remboursement de la dette, avec un effet boule
Alors,
de neige que
oui,
nous ne contrôlons plus, Emmanuel?
Mais c'est surtout que l'argent, il passe dans la gestion de tout ça, dans ce qu'on appelle, en gros, les fonctionnaires qui sont au contact des usagers sont paupérisés, et derrière, on gaspille des sommes folles. Je vous donne juste un chiffre sur l'éducation nationale. Regardez l'effondrement du rang de nos élèves dans les classements internationaux. C'est catastrophique. Un enseignant en France, il touche 30% de moins qu'un enseignant allemand. Mmh. Il y a à peu près autant d'élèves dans les deux pays. Et pourtant, le système éducation nationale coûte 10 milliards d'euros de plus en France chaque année qu'en Allemagne. Pourquoi? Pas parce qu'il y a des complexités administratives, des lourdeurs, etc. Et c'est partout pareil. Donc le rapport qualité-prix, ça c'est un point important. Avec Emmanuel Macron, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de justice fiscale. C'est-à-dire que par rapport à sa vision de l'économie qui était de dire il faut privilégier d'abord les entreprises pour créer des emplois, les cadeaux, ils ont été faits d'abord, effectivement, aux catégories sociales les plus favorisées, l'ISF, la taxe à 30% sur les revenus du capital, ça a été effectivement tout de suite, alors que les baisses de cotisations, tout ça, c'était plus tard. Et ça a créé un sentiment d'injustice fiscale. Et puis, au-delà de ça, il y a un sentiment d'instabilité fiscale et d'insécurité fiscale.
Oui.
Parce que tout le temps, on vous dit que les impôts vont augmenter. Regardez quand même depuis la rentrée, même si c'était que des rumeurs, l'ancienne ministre de la Culture nous dit « Vous n'avez pas de télé, c'est pas grave, vous allez quand même payer la redevance. Vous vendez un canapé sur Le Bon Coin, etc. Ouh là là, on va aller voir de près ce que ça vous rapporte. » Gérald Darmanin, à un moment, il envisageait de taxer les prestations versées par les comités d'entreprise. Et il y a aussi ce sentiment qu'on est privé de liberté et qu'on n'a plus du tout de marge de manœuvre. Donc tout ça s'accumule et effectivement explose aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, notamment auprès des centres des impôts.
Très bon préambule, cher Emmanuel Le Chypre. Je vais donner la parole juste après la pause à Laurent Benoudis pour nous parler de cet impôt sur le revenu, des taxes aussi, de la TVA, parce que c'est quasiment l'impôt au sens large qui rapporte le plus à l'État, beaucoup plus en tout cas que l'ISF, notamment puisque l'ISF est aussi au cœur du débat avec sa suppression. On va faire le tour de ce ras-le-bol fiscal, de cette pression fiscale, pour voir aussi que les Français demandent plus de lisibilité. C'est quand même a priori ce que la réforme du prélèvement à la source devrait permettre à partir du 1er janvier. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à réagir, vous aussi, chers amis. Le Standard vous est ouvert et cette émission vous est dédiée, Julie.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur le prélèvement à la source. On en parle avec Laurent Benoudis, qui est président de l'Ordre des experts comptables en Île-de-France, et Emmanuel Le Chypre, directeur de l'Observatoire BFM Business. Vos invités, Wendy Bouchard.
Oui, une réforme qui intervient dans un contexte très compliqué, alors que les différents centres des impôts sont les cibles des colères un petit peu partout en France, alors que la pression fiscale est au cœur des réflexions du moment. Laurent Benoudis, un système fiscal, on va en parler dans le détail, mais qui est jugé par les Français trop lourd, trop illisible, pas juste aussi, fondamentalement.
Oui, la question déjà qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert de payer de l'impôt? Il y a deux approches. Hein. La première, c'est de dire ça sert à payer le fonctionnement de l'État. Ça, c'est une version qui est plutôt libérale. Puis il y en a une deuxième, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, qui est de dire ça sert à l'équité, à l'égalité, à la justice fiscale. Maintenant, est-ce que l'impôt a vraiment vocation à être un outil de justice et de redistribution? En partie peut-être, mais pas nécessairement essentiellement. L'objectif numéro un de l'impôt, c'est quand même le financement des services de l'État. On a parlé beaucoup des taux de prélèvement. On est numéro un mondial, on l'a rappelé. Ça représente 1000 milliards d'euros de prélèvements fiscaux. Et on se demande tout le temps où part l'argent. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'essentiel de la dépense fiscale en France, enfin l'essentiel de la dépense de l'État, c'est le transfert social. C'est-à-dire que les deux tiers des dépenses, c'est pas l'école, l'université, les hôpitaux, la police, la justice. Ça, c'est tous ces services-là qui sont payés par l'État, ça représente qu'un tiers de ces 1000 milliards. Tout le reste, c'est les pensions de retraite qui sont versées. Et on a en France, ce qu'on n'a pas connu dans les autres pays européens, où il y a eu un plan de rigueur. En Espagne, on a baissé de 20% les pensions de retraite. En Grèce, je ne vous en parle même pas, la situation n'était pas pareille. Mais on a connu en fait des plans de rigueur en France qu'on n'a pas connu en France. En France, on a un taux de redistribution qui reste quand même très important. Et quand on regarde les écarts entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres avant redistribution et après redistribution, la différence, elle est significative. En fait, l'indice de qui montre la différence entre les plus pauvres et les plus riches est plus faible en France que dans le reste du monde. Donc on a un pays qui a un gros taux de redistribution.
Oui.
Et malgré ça, le sentiment n'est pas celui-là.
Le sentiment, il est celui-ci. 67% des Français d'abord jugent le montant des impôts excessif. Il n'y a que la moitié des Français qui considèrent que le paiement de l'impôt est un acte citoyen au service de l'intérêt général. Mais vous avez bien montré, messieurs, quelles étaient les limites du système de redistribution. C'est compliqué aussi lorsque l'on dit, mais finalement, l'impôt sur le revenu, ça concerne peu de Français, 16 millions de foyers fiscaux, il y a 43% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Mais si on prend la CSG, la TVA, Emmanuel Le Chypre, les plus pauvres consentent aussi à des impôts qui ne disent pas tout à fait leur nom, mais qui en sont.
Oui, c'est vrai que c'est l'inconvénient de notre système fiscal, c'est-à-dire qu'il il cumule tous les inconvénients des pires systèmes fiscaux. C'est-à-dire qu'un bon impôt, c'est quoi? C'est un impôt qui frappe beaucoup de monde à un taux très faible, donc qui n'est pas très douloureux et qui, du coup, rapporte beaucoup d'argent.
Oui.
L'impôt sur le revenu en France, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il frappe peu de monde.
Il y a 10% des Français
finalement,
qui payent 70%
exactement.
De l'impôt sur le revenu.
Il frappe peu de monde, puisque vous avez la moitié des ménages qui ne payent pas cet impôt. Il rapporte pas grand-chose. Il faut bien comprendre que par rapport aux autres pays européens, les Français payent peu d'impôts sur le revenu globalement. En revanche, la réalité, c'est qu'il y a un deuxième impôt sur le revenu et dont le statut a toujours été un petit peu ambigu. C'est cette CSG qui est présentée comme une cotisation sociale, mais qui est un véritable impôt. Cet impôt-là, il rapporte beaucoup plus.
90 milliards d'euros par an, on a vérifié, contre 78 milliards pour l'impôt sur le revenu.
Exactement. Et le problème, c'est que c'est un impôt qu'on dit proportionnel. C'est-à-dire qu'en gros, votre premier euro est taxé au même taux que votre dernier euro gagné.
Oui.
Ce qui est le contraire de la logique d'un impôt progressif où on considère qu'on taxe davantage vos derniers euros gagnés que les premiers euros gagnés. Et le problème, c'est qu'effectivement, on dit la moitié des Français, les plus modestes, ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais ils payent une CSG, dès le premier euro gagné, très fort. C'est pour ça que vous avez, par exemple, aujourd'hui, parmi les économistes plutôt de gauche, beaucoup d'entre eux qui poussent pour sortir de cette solution et redonner du pouvoir d'achat, une CSG progressive, c'est-à-dire qu'elle serait moins forte, moins douloureuse pour les Français les plus modestes, parce que ces Français payent beaucoup de CSG dès leur premier euro. Et si vous regardez finalement l'imposition des foyers les plus modestes en France, contrairement à ce que laisse penser l'impôt sur le revenu, et ben par rapport à leurs voisins européens, ils sont plutôt plus taxés que la moyenne des voisins européens.
Et puis la TVA, on n'en parle pas. Tout le monde la paye, là, pour le coup.
La TVA, tout le monde la paye.
Et au même prix. La CSG, vous nous rappelez, Emmanuel Lechypre, à quoi elle sert, cette contribution sociale généralisée?
À quoi vont
ces impôts?
La CSG, elle est payée, alors, à la différence de l'impôt sur le revenu qui, lui, concerne la famille, la CSG, elle est payée par chaque personne sur tous ses revenus, hein. C'est ça qui en fait sa qualité. C'est-à-dire que c'est sur les revenus du capital, sur les revenus du travail. Et elle sert à financer, effectivement, notre système de protection sociale. C'est Michel Rocard qui l'avait créé quand il était Premier ministre. Elle avait commencé à un taux
0,5.
Extrêmement bas. Mmh. Et comme c'est un impôt très efficace, parce qu'effectivement, il touche beaucoup de monde et qu'il paraissait pas trop douloureux jusqu'à maintenant, on a poussé les feux, trop sans doute.
Oui, et je vais vous donner la parole dans un instant, Laurent Bénoudis, mais j'ai Christiane dans un instant qui sera avec nous, ainsi que Martine, ainsi que Jacqueline. Julie et moi-même attendons vos appels au 3921 pour mieux comprendre ce qui s'opère dans 25 jours aussi, dans ce contexte que vous nous expliquez bien l'un et l'autre. La France va donc adopter un système de prélèvement pour lequel ont opté déjà nos différents voisins et depuis longtemps, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique aussi, ce fameux prélèvement à la source. Qu'est-ce que ça peut changer dans le quotidien pour les Français? On en parle avec vous, Julie. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Journée spéciale prélèvement à la source avec nos experts comptables sur Europe 1. 39,21, 50 centimes la minute pour toutes vos questions. On vous guide avant la réforme. Et on a posé une question Facebook, Wendy, comme tous les jours. Êtes-vous favorable au prélèvement à la source? Oui à 52%, donc c'est vraiment...
partagé, moitié-moitié.
Ouais, partagé,
moitié.
Voilà. Quelques commentaires, Florence nous dit « Moi je ne les veux ni à la source, ni au puits, ni au robinet, j'en veux plus. » C'est clair. Il n'y a que ceux qui ne paient pas à qui cela va faire drôle. Pour les autres, rien de nouveau, il faut arrêter cette fausse polémique, nous dit Véronique. L'effet psychologique de voir sa fiche de paye directement amputée sera redoutable, nous dit JM. Et puis Nordine, cela évitera les impayés pour l'État, donc c'est une bonne solution.
Oui, l'effet psychologique, il faut en reparler avec vous, Laurent Bénoudis, président de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France, et avec vous, Emmanuel Lechypre, avec ces tags qu'on retrouve sur les murs des centres des impôts à Limoges, à Cahors notamment. Joyeux Noël et bonne taxe. Psychologiquement, au 1er janvier, est-ce que l'effet d'un salaire déjà raboté, déjà prélevé, va faire du mal?
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'impôt sur le revenu n'est payé que par 45% des Français. Donc déjà, il y a une grosse majorité d'entre eux qui ne verront aucun changement entre avant et après, puisqu'il n'y aura pas de prélèvement sur le bulletin de salaire. Pour ceux qui auront un impôt qui sera payé par prélèvement sur le bulletin de salaire, il ne faut pas oublier que normalement, ils auraient dû payer le 15 janvier un acompte d'impôt directement sur leur compte en banque. Donc, ce prélèvement n'aura pas lieu le 15 janvier, mais aura lieu au moment du paiement du salaire qui sera un peu plus faible. Mais au global, la PAC sera la même. Moi, mon sentiment, c'est qu'on aura normalement des fins de mois qui seront un peu moins compliquées compte tenu du fait que les 15 jours qui vont du 15 janvier au 30 janvier, on n'aura pas été ponctionné de l'impôt, on sera ponctionné de l'impôt au mois de janvier. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir payer l'impôt de janvier avec le salaire de janvier, alors qu'aujourd'hui, on doit payer l'impôt de janvier avec le salaire du mois de décembre.
Oui, c'est ça.
Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait un effet négatif sur le pouvoir d'achat en vérité.
Alain nous dit, sur Facebook également, Julien en citait d'autres commentaires, 70% de foyers fiscaux étaient en prélèvement mensuel sur 10 mois jusqu'à présent. On passe au prélèvement sur 12 mois pour un montant inférieur à revenu égal. Donc, où est le problème? Pour moi, le pouvoir d'achat, il se juge en annuel. Vous créez un problème là où il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut le rejoindre un petit peu, Emmanuel Le Chypre?
Incontestablement, le mode de prélèvement des impôts, ça rythmait quand même la vie financière des Français. Hein, et quand vous étiez prélevé soit 3 fois par an, soit 10 fois par an, c'est pas tout à fait la même chose d'être prélevé 12 fois par an. Donc effectivement, ce qui risque de se passer quand même, c'est dans un moment où en plus toutes les boussoles sont perturbées par d'autres dérèglements.
Surtout,
C'est-à-dire que si vous regardez bien déjà la fiche de paie des Français depuis que Emmanuel Macron est arrivé, entre la hausse de la CSG, la première baisse des cotisations sociales au printemps, la baisse des cotisations sociales en octobre, plus le prélèvement à la source, la feuille de paie des Français, elle aura changé 4 ou 5 fois en 18 mois. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les Français, ils sont pas bêtes. Ils ont bien compris que c'était une réforme du mode de prélèvement, que c'était pas une réforme fiscale.
Oui, donc, le niveau d'impôt sera le même.
Au final, ils vont payer autant d'impôts. En revanche, effectivement, je pense que dans la gestion de trésorerie, la première année va sans doute y avoir une épingle de précaution qui va se constituer en début d'année pour savoir à quelle sauce un peu on va être mangé. Donc, il est possible que la première année, on ait des achats importants qui soient peut-être un peu différés. Mais ça, ce sera l'effet de la première année. Moi, là où je suis moins enthousiaste que vous sur l'effet de la réforme, c'est quand même l'État, il se fait de la trésorerie sur le dos des Français. Pourquoi ? Parce que oui, il y a effectivement cette idée que vous n'allez plus payer le 15 du mois comme au moment où vous êtes prélevé, mais à la fin du mois. Mais n'oubliez pas que jusqu'à maintenant, on payait en l'année N les impôts sur vos revenus de l'année N-1. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque année, les revenus des 2/3 des Français augmentent. Et que ces Français dont les revenus augmentent, ils n'auraient payé des impôts sur ces revenus augmentés que l'année suivante. Et là, ils vont les payer tout de suite.
Direct,
donc
oui.
En fait, pour les Français dont les revenus augmentent chaque année, donc les 2/3 d'entre eux encore une fois, en matière de trésorerie, ce n'est pas une super affaire, le prélèvement à la source. En revanche, pour les gens dont les revenus baissent ou dont les revenus stagnent, après tout, effectivement, c'est plutôt sans doute une bonne solution.
Un tout petit mot avant la pause sur cette actualité. Il faut se mettre à la place quand même des contrôleurs des impôts dans les centres des impôts où vous êtes accueillis régulièrement. On y est tous allés pour essayer de demander aussi des commodités. C'est un peu dur ce qu'ils vivent aussi parce qu'eux, ils sont, j'allais dire, les victimes collatérales de ce climat. Un petit mot pour cette colère aussi sociale qui s'exprime avec ces centres, ces lieux très symboliques pris pour cible. Emmanuel Le Chypre et Laurent Benoudiz.
Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il faut souligner l'extrême qualité de notre administration fiscale. C'est-à-dire que s'il y avait une compétitivité, un championnat du monde des administrations fiscales, en termes de qualité de perception, c'est-à-dire qu'on a un taux de recouvrement de l'impôt en France qui est exceptionnel, on a une créativité fiscale qui est fabuleuse, on pourrait exporter toutes nos idées dans le monde entier, et si ça rapportait de l'argent, on aurait sans doute un déficit commercial moins important. Donc ils sont très forts, et en plus, il faut le reconnaître, ils sont quand même assez compréhensifs. C'est-à-dire que quand vous avez un problème fiscal et que vous êtes plutôt honnête, ils arrangent, et c'est pour ça que toutes les histoires, quand on nous a dit le prélèvement à la source, oui mais regardez les gens qui ont une baisse de revenus, vous alliez voir avant votre centre des impôts, ils vous trouvaient une solution. Et ça, effectivement, il faut le souligner, il faut souligner aussi les dangers de la dématérialisation. C'est-à-dire qu'en matière fiscale, regardez à quel point c'est important quand même, sur des sujets aussi complexes, de pouvoir avoir un interlocuteur physique, d'aller voir quelqu'un
avec
qui vous aide. Parce que Internet, tout ça, c'est bien joli, mais quand vous avez un vrai problème, c'est important d'avoir quelqu'un. Donc, à mon avis, il y a la double problématique qui est les services publics dans les territoires et puis le côté bouc émissaire, effectivement. Mais ça montre aussi que les gens, ils ont besoin d'avoir quand même des interlocuteurs physiques. Donc, il faut féliciter notre administration fiscale.
Et ça montre l'inquiétude des agents du fisc. Je vous donne la parole dans un instant, Laurent Benoudiz. Avec Christiane, vous pourrez converser. Avec Martine, avec Jacqueline, qui sont arrivés au standard et auxquels je donne la parole. À tout de suite.
Attention, de fausses pubs se cachent en ce moment sur Europe 1. Alors si vous entendez une fausse publicité, tentez votre chance, c'est le moment où vous envoyez pub par SMS au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS, ou vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnez le tout nouvel iPad Pro. Repérez la fausse pub, envoyez pub au 739 21, 3 SMS pour jouer, ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Journée spéciale impôt prélèvement à la source sur Europe 1 toute la journée et depuis 7h ce matin jusqu'à 18h cet après-midi. Nos experts répondent à toutes vos questions au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. Et je rappelle et je vous précise que vous nous appelez, vous laissez votre numéro de téléphone et nous vous rappelons pour toute la durée de la consultation. Bien sûr, c'est nous qui vous rappelons.
Et absolument. Emmanuel Le Chypre est avec nous, directeur de l'Observatoire BFM Business. Et Laurent Benoudis, vous répondez aux questions de nos interlocuteurs auditeurs, président de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France. Christiane est avec nous. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Eh bien, chère madame, je pense que le sujet vous préoccupe, que vous payez aujourd'hui l'impôt sur le revenu, Christiane ?
Alors non, justement, je ne paye pas l'impôt sur le revenu parce que je suis toute seule.
D'accord.
Je suis assistante maternelle indépendante. Mmh. Moi, je me suis déplacée aux impôts à côté de chez moi, où j'habite à Saint-Leu-la-Forêt. On a beaucoup de mal à avoir des réponses, à savoir à quelle sauce on va être mangé.
Oui, l'administration est un peu débordée.
Nous, on a droit à un abattement en tant qu'assistante maternelle. C'est notre seul avantage. C'est pour ça que j'en paye pas.
Oui.
Et je voudrais dire quand même que, bon, on nous répond pas au téléphone, on n'est pas reçu, ou alors, moi, je peux pas me déplacer avec les enfants. Il y a 100 personnes qui attendent. Mm. Et pour parler des impôts en général... c'est vrai que franchement, il y a des choses inadmissibles. Moi, j'ai reçu ma taxe d'habitation cette année qui a augmenté de 282 euros.
Oui.
Parce que, alors que je suis toute seule, je n'ai qu'un revenu, parce qu'il se trouve que l'année d'avant, j'ai bien gagné parce que j'ai fait 16 heures par jour de travail. Voilà.
Oui, bon, là, ça,
donc, c'est vrai qu'on ne sait plus trop ce qu'il faut faire.
Ça n'a rien à voir, malheureusement, la taxe d'habitation avec ce que vous avez gagné. Mais évidemment, un certain nombre de communes ont dû augmenter cette taxe d'habitation,
oui, voilà,
pour faire face à la baisse des dotations. Mais donc,
oui.
Vous voulez savoir aujourd'hui si vous allez payer quelque chose avec ce nouveau prélèvement
à
la source ?
Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, les parents... donc moi, j'ai des fiches de paye faites par la page emploi,
oui.
Puisque je suis indépendante. Mais c'est vrai que bon, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu paumé, quoi. On est complètement paumé.
Et on est à 25 jours de la réforme, et c'est vrai qu'il faut encore vous éclairer. Laurent Benoudis vous répond, Christiane.
En fait, si vous n'êtes pas imposable aujourd'hui, vous ne serez pas prélevé à la source demain. Si vous êtes indépendant, de toute manière, il n'y a pas de prélèvement à la source. On reste sur des systèmes d'acompte, sauf que le rythme des acomptes est différent. Au lieu d'avoir des acomptes, trois acomptes quand on est trimestralisé, on aura des acomptes mensuels.
D'accord.
Qui s'étaleront sur 12 mois. Après, il y a un cas de figure particulier, c'est lorsque vous avez un revenu fiscal de référence par du couple, par conjoint, inférieur à 25 000 euros, et que deux années de suite, vous ne payez pas d'impôt, non pas parce que vous n'êtes pas imposable en raison de vos revenus, mais en raison de réduction de crédit d'impôt. Et dans, le système, en fait, fait en sorte que le prélèvement à la source ne tient pas compte de ces réductions de ces crédits d'impôt. On doit normalement être prélevé tous les mois, et puis on fait sa déclaration d'impôt et on touche l'année suivante les réductions des crédits d'impôt.
Prélèvement individuel, et plus sur la base d'un foyer fiscal comme jusqu'à présent.
En fait, là, par exemple, les dépenses qui ouvrent droit à réduction des crédits d'impôt, les dons que vous pouvez faire à des associations, les frais de garde d'enfants, vont faire l'objet d'un remboursement en 2019.
Oui.
Et donc, évidemment, le prélèvement qui aura lieu en 2019 ne tiendra pas compte de ces réductions de ces crédits d'impôt qui sont liées à l'année 2018 sur l'année 2019.
Ouais.
Et donc, pour éviter que les gens payent de l'impôt puis ensuite se fassent rembourser de l'impôt en permanence, l'administration a considéré que lorsque vous étiez dans la situation où vous ne payez pas d'impôt parce que vous étiez avec moins de 25 000 euros de revenus par part deux années de suite, eh bien, on ne vous fera pas rentrer dans l'impôt pour vous faire ensuite rembourser cet impôt. Voilà, donc il n'y a pas un prélèvement à la source systématiquement pour tout le monde.
D'accord. Emmanuel Le Chypre, je disais que nos voisins se sont rangés à cette réforme et à ce système depuis longtemps. Ça fait 30 ans en France qu'on en parle. Pourquoi on a mis autant de temps justement à changer de système de prélèvement ?
Parce qu'il y a un grand particularisme français qui est ce qu'on appelle la familiarisation des impôts sur le revenu. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens ou même si c'est moins vrai aux États-Unis où il y a une forme de familiarisation, c'est qu'on paye, chaque personne paye des impôts qui correspondent à sa situation personnelle, que vous soyez marié ou pas. En France, on a considéré qu'on payait des impôts au niveau du foyer fiscal,
oui,
avec notamment ce fameux quotient familial qui vous permet de payer moins d'impôts si vous avez des enfants. Et ça, c'est un vrai particularisme d'accord, français. Et avec... une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait justement le prélèvement à la source pendant très longtemps, alors qu'on en parle effectivement depuis 30 ans, c'était à cause de ce particularisme qui fait qu'effectivement, c'est plus compliqué.
Et alors, donc... alors que c'était assez injuste, parce que lorsqu'on a des accidents de la vie, qu'on perd son boulot, qu'on a un salaire qui est divisé par deux et qu'on continue à payer l'année dite, les revenus de l'année passée, c'est très compliqué pour certains Français.
Ça fait partie effectivement des principaux arguments qui sont avancés pour dire, regardez, alors le grand argument, c'est les retraités, c'est-à-dire les gens qui partent à la retraite, qui subissent une baisse de revenus et qui, l'année où ils subissent la baisse de revenus, devaient payer des impôts sur leurs revenus de l'année précédente, ça, effectivement, ça disparaît. Donc ça, c'est quand même la population qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de dire, ceux pour qui le revenu baisse, eh bien, ces gens-là, ils sont effectivement gagnants. Mmh. Mais encore une fois, il ne faut pas fantasmer cette idée qu'on va payer des impôts sur les revenus simultanément au moment où on les gagne et que ça va s'ajuster très bien. Non, dans la plupart des pays qui ont un impôt à la source, vous êtes quand même obligé de faire une déclaration l'année suivante parce qu'il y a quand même plein de cas dans lesquels, en début d'année, vous ne pouvez pas, par définition, savoir quels seront vos revenus de l'année.
Donc, du coup, il y aura du rattrapage, la redistribution.
Il y aura
après.
Moins de décalage, puisqu'en France, on arrivait parfois à des décalages de 2 ans entre une prestation versée, la déclaration, etc. Là, ça va se réduire. Mais ne considérons pas que c'est un véritable impôt simultané qui va s'ajuster au moins le mois, finalement, à vos revenus. Non, on ne sera pas dans ce cas-là.
D'accord. On avait une question d'un auditeur, Julie.
Pleine de bon sens. C'est Jean Seb qui nous dit « Avec le prélèvement à la source, une part du travail de l'État va être transférée aux patrons des entreprises. »
Absolument.
Ce sont les patrons qui vont opérer ce fameux prélèvement. Mmh. Est-ce que l'État va pouvoir économiser sur les coûts de fonctionnement de l'administration fiscale? Ça fera une sacrée économie pour l'État.
Bonne question.
Alors.
Les patrons collecteurs de l'impôt.
Et bien alors, l'État va gagner de l'argent.
Alors, une des principales là-dessus. Motivations de l'État, il ne faut pas s'en cacher, c'est effectivement de transférer le coût de collecte de l'impôt aux entreprises, ce qui va représenter effectivement la première année des sommes assez conséquentes. Alors, pour les grosses entreprises, c'est à peu près 5-6 euros. Et pour les plus petites, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 euros la première année pour s'adapter. La difficulté, notamment, c'est pour les petites entreprises, parce qu'on nous a dit que finalement, pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est l'URSSAF qui allait gérer finalement cette gestion du prélèvement à la source. Le problème, c'est que la plateforme Internet qui est censée gérer le prélèvement à la source fonctionne aujourd'hui pour aller 50 000 entreprises, on va dire.
Ah oui, oui.
Et
ça marche
si
pas, en fait.
Demain, les petites entreprises de moins de 20 salariés passent sur cette plateforme, vous passez à 1 million, voire 2 millions d'entreprises.
Donc c'est impossible. Donc...
Quand vous voyez le bazar que ça a été, les cartes grises, par exemple, vous voyez, la réforme des cartes grises, vous vous dites, la plateforme de l'URSSAF, est-ce qu'elle va être capable de supporter la charge? Ça ne va pas être simple.
Donc les petits patrons, ils sont inquiets aujourd'hui.
Non, la plateforme dont parle notre ami est en fait un outil qui permet de faire des bulletins de paye en ligne. Le problème du bulletin de paye, ce n'est pas le calcul du bulletin de paye, c'est de savoir quel est le montant du brut, que faire quand un salarié est absent.
C'est très compliqué, c'est un travail à temps plein.
C'est un travail qui nécessite d'avoir en face un interlocuteur qui est un spécialiste.
Oui.
C'est pour ça qu'en général, les petites entreprises n'ont pas recours à ce dispositif qui est trop complexe et qui ne pourra, en l'état actuel du droit, ne jamais simplifier. Quand on regarde le code du travail, il faudrait apprendre tout ça pour pouvoir faire un bulletin de salaire. Donc en général, ce sont les experts comptables qui accompagnent les chefs d'entreprise dans la mise en place du prélèvement à la source. Parce que
c'est bien, ça nourrit votre métier.
Bien souvent, on préfère apporter du conseil et l'accompagnement que facturer des prestations comme celle-ci. Mais on accompagne nos clients en permanence, dans l'établissement de leur bulletin de salaire et évidemment dans la mise en place du prélèvement à la source.
Là, vous parlez des entreprises, mais l'État, donc pour en revenir à Jean-Sébastien, là, l'État va faire une économie.
Alors, je ne suis pas certain que...
Ça va rapporter de l'argent à l'État, puisque ce n'est plus l'administration fiscale qui va s'occuper
sur
de ça.
Sur la collecte.
La collecte.
Je ne suis pas certain que les premières années, ça soit le cas. Parce qu'il va y avoir déjà tellement de questions qui vont se poser, tellement de rendez-vous. On continuera toujours à faire une déclaration d'impôt. L'État continuera toujours à nous rembourser sur nos comptes en banque les réductions des crédits d'impôt. Donc, il y aura toujours une gestion à faire. Ah. Alors, il y aura peut-être un peu moins de recouvrement. D'arriérés d'impôts.
C'est ça.
Puisqu'évidemment, c'est plus vous qui devez payer l'impôt, c'est l'employeur qui le retient. Voilà. C'est certain que la conjugaison à la fois de la suppression de la taxe d'habitation et du prélèvement à la source de l'impôt fait que, évidemment, l'impôt ne devrait plus être payé directement par les contribuables qui sont salariés et qui n'ont plus de taxe d'habitation.
Enfin, ça fera quelques centaines d'emplois en moins quand même à la direction des impôts. Direction dont les effectifs ont quand même déjà pas mal diminué ces dernières années.
Rien n'est gratuit. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur le prélèvement à la source et son fonctionnement. Nous participons dans cette émission à la journée spéciale impôt prélèvement à la source sur Europe 1. Nos experts répondent à toutes vos questions. Au standard, le 39-21, 50 centimes la minute, vous appelez et on vous rappelle.
Nos experts, Laurent Benoudis, président de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France, et Emmanuel Lechypre, économiste et directeur de l'Observatoire BFM Business, au cœur de ce ras-le-bol fiscal, avec ce slogan choisi par Bercy pour le prélèvement à la source et pour le lancement de cette réforme qui sera donc opérationnelle à partir du 1er janvier. L'impôt s'adapte à votre vie, très bien, mais comment va-t-il s'adapter, par exemple, à la réflexion de Sophie qui nous écrit d'Avignon. Emmanuel Lechypre, que dois-je faire si mes revenus ou ma situation de famille évoluent en cours d'année? Parce que vous nous disiez que c'est, en effet, ça ne sera pas tout à fait, Laurent Benoudis, une ponction directe, comme on aurait pu le penser mois après mois, sur les revenus que vous gagnez exactement mois après mois.
Oui. Lorsque vous avez une évolution dans votre situation familiale, donc soit une séparation, soit un mariage, soit la naissance d'un enfant, une adoption, bien dans ces cas-là, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site impots.gouv.fr et déclarer l'événement à l'administration fiscale. Eux, ils s'engagent dans les 60 jours de cette déclaration à adapter et automatiquement le taux qui tiendra compte de cette nouvelle situation.
D'accord.
Que se passe-t-il si vous ne le faites pas? Eh bien, rien. Ce qui va se passer, c'est que quand vous
ça
allez
va
faire
être réajusté.
Votre... Ça ne sera plus réajusté. Vous avez 60 jours pour le faire.
D'accord.
Si vous
ne
le faites pas dans les 60 jours, vous perdez la possibilité de le faire.
Ah bon?
Oui, mais ça ne veut pas dire que vous aurez payé trop
d'impôts. Ah oui, c'est ça. Ça va
on n'ajustera pas votre taux dans l'année. Mais quand vous ferez votre déclaration au mois de mai de l'année suivante et que vous déclarez la naissance de votre enfant, eh bien, l'administration va calculer votre nouveau taux en tenant compte de cette réduction d'impôt liée à votre enfant et vous remboursera le trop
premier. L'administration est de bonne foi.
Ah, si c'est un rétroactif.
Bien sûr, automatiquement. Par contre, si vous voulez le faire tout de suite, c'est possible.
C'est possible.
Sur
dans un délai 160 jours.
Mais vous avez 60 jours.
Est-ce que
faire.
C'est possible aussi pour des changements de situation financière? Il y a beaucoup, notamment dans nos métiers, de pigistes qui gagnent beaucoup au mois de janvier, qui gagnent rien au mois de février, qui gagnent un peu plus en mois d'avril, qui gagnent rien au mois de mai. Comment on fait?
En fait, le grand intérêt du prélèvement à la source, c'est que justement, c'est prélevé à la source. C'est-à-dire que vous avez un salaire au mois de janvier, vous gagnez 5000 euros parce que vous avez beaucoup bossé, et bien vous allez être prélevé. Et puis au mois de février, vous ne bossez pas, vous ne serez pas prélevé. Donc
d'accord.
Là, l'impôt va
donc
automatiquement s'ajuster.
Là, il y a quand même un ajustement automatique.
Et bien, évidemment, puisque il faut un bulletin
de salaire. C'est un pourcentage
de ce qu'on gagne. C'est automatique. Vous voyez, lorsque vous avez un bulletin de salaire, évidemment.
D'accord,
si vous
disiez que ce n'était pas absolument automatique, Emmanuel Lechypre. Ça va se faire comme ça quand même, si on est salarié.
Si vous êtes salarié.
Ah oui, c'est ça.
Ah, oui.
Après, si on est pigiste, si on est profession libérale, etc.
90% des gens perçoivent un bulletin de salaire.
Après, quand vous êtes salarié, vos revenus ils varient pas du simple au double tous les mois.
Alors, ça dépend de l'activité que vous avez. Quand vous avez des statuts d'intermittent,
et là pour les indépendants, les pigistes, etc., on reste quand même sur le mode de fonctionnement
d'avant.
Qui est un peu le mode de fonctionnement d'avant.
C'est ça. Jacqueline est avec nous au standard au 3921. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Vous nous appelez, chère madame de Poitiers. On écoute votre question, madame.
Comme vous le savez, nous les retraités, nous n'avons pas de bulletin de salaire.
Oui.
Et à l'occasion de la mise en place du prélèvement à la source, on se demande comment vérifier si on ne va pas nous faire une petite ponction supplémentaire.
Ah, quand même, c'est pas le genre de l'administration fiscale.
Avec tout ce qu'on a infligé aux retraités, on devient méfiant.
Bien sûr, Laurent Benoudis vous répond, madame.
Alors, vous pouvez recalculer, évidemment... le montant du prélèvement qui doit être appliqué par l'administration fiscale.
Mais comment elle recalcule,
Jacqueline ? Il est aussi possible, c'est le plus simple à mon avis, c'est de prendre rendez-vous avec les inspecteurs des impôts et les contrôleurs des impôts dans les centres des impôts.
Oui.
On parlait tout à l'heure des gilets jaunes qui attaquaient les centres des impôts. Au-delà de l'affaire symbolique du centre des impôts, il y a aussi des fonctionnaires derrière qui sont en général des gens qui n'ont pas des rémunérations importantes et qui sont au service des contribuables chaque année. Chaque année, c'est 1 million de contribuables qui vont dans les centres des impôts, qui se déplacent physiquement pour aller discuter de leur déclaration d'impôt, etc. Donc, il y a une vraie... un vrai accompagnement de leur part. Et ils sont souvent très, très à l'écoute de ce qui se passe chez les contribuables.
Oui, mais comment Jacqueline peut calculer le montant qui lui sera prélevé? Est-ce qu'elle peut le faire ça facilement?
Non, mais Jacqueline, elle reçoit des documents quand même pour sa retraite, même si elle n'a pas le bulletin de paye.
Oui.
Oui.
Le calcul de l'impôt n'est pas simple parce que c'est un barème progressif, il y a des abattements, il y a des taux de réduction. Donc pour Jacqueline, moi je pense que le plus simple c'est d'aller voir le centre des impôts pour leur demander quel est le détail de ce calcul.
Voilà.
Qu'on ne reçoit pas en fait quand on est contribuable.
C'est ce qu'on vous conseille, chère madame. Juste après la pause, Martine a encore une question. Merci de vos éclairages pour accompagner nos auditeurs. À 25 jours de la mise en place de ce prélèvement à la source, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. Qu'est-ce que le prélèvement de l'impôt à la source va changer pour vous? Vos questions au 39-21 et nos réponses dans cette émission jusqu'à 10h et auprès de nos experts comptables. Vous pouvez les consulter jusqu'à 18h sur Europe 1.
Encore quelques minutes ensemble avec Emmanuel Lechypre, économiste et directeur de l'Observatoire BFM Business. Y a-t-il des gagnants et des perdants dans cette histoire, Emmanuel?
On l'a vu, petit gagnant, c'est ceux dont les revenus baissent d'une année sur l'autre. Petit perdant, c'est ceux dont les revenus augmentent d'une année sur l'autre parce qu'ils n'ont pas le décalage de trésorerie. Mais il y a deux catégories surtout pour qui ça va changer. C'est d'abord les jeunes qui rentrent dans la vie active. Eux, avant, ils avaient une année de répit et ils pouvaient toucher une année de revenus avant de payer des impôts. Donc, c'était peut-être plus facile pour s'installer dans la vie. Donc, eux sont perdants. En revanche, les grandes gagnantes, ce sont les femmes. Parce qu'il faut rappeler que le système d'imposition par famille, finalement, était très avantageux quand il y avait un écart de revenus important au sein du couple. Quand l'homme gagnait beaucoup plus que la femme, en fait, c'était très avantageux finalement pour la femme d'arrêter de travailler sur le plan fiscal. Là, ce qui change avec le prélèvement à la source et notamment avec la possibilité d'individualiser son impôt, c'est d'avoir une répartition plus juste de l'impôt d'abord, parce que effectivement chacun paye en fonction de ses revenus. Mais surtout, l'incitation à moins travailler pour le conjoint qui gagnait le moins, elle s'inverse. C'est-à-dire qu'avec ce système d'imposition individuelle, vous avez au contraire à faire travailler plus celui qui travaillait peu avant. Et donc, ça peut encourager aussi l'activité des femmes. C'est-à-dire que ça peut inciter des femmes qui, avant, étaient plutôt incitées à rester chez elles pour des raisons fiscales, à, au contraire, travailler davantage ou reprendre un travail.
Parmi les gagnants, on compte aussi les personnes qui prennent leur retraite en 2019. Hein ?
Absolument. Ça, ça fait partie de la catégorie dont, dont le revenu baisse et donc qui va être gagnante à cet ajustement. Mais juste un mot pour dire que, vous voyez, cette idée d'individualisation qui est l'autre grande possibilité qu'offre ce prélèvement à la source, et c'est ça qui est important, c'est que ça ouvre des possibilités de réforme fiscale par la suite qui sont très importantes. C'est-à-dire que cette idée de prélèvement à la source et d'individualisation fait que demain, on peut enfin enclencher une grande réforme fiscale. Si c'est le sujet qui est sur la table pour les 6 mois qui viennent, réclamé par la rue, et ben là, il y a un outil supplémentaire avec le prélèvement à la source pour aller vers une véritable réforme fiscale.
Merci Emmanuel. Bonjour Martine.
Martine. Bonjour Wendy.
Merci madame de nous appeler de Marseille pour questionner nos invités et exposer votre cas. On vous écoute Martine.
Voilà, alors j'ai 64 ans, je suis célibataire, j'ai pris ma retraite en décembre 2017. Et en décembre 2017, j'ai eu une prime. Donc, automatiquement, mes revenus étaient exceptionnels, ont dépassé le plafond.
Oui.
Donc, j'ai été imposée en 2018 à hauteur de ce que j'avais touché.
Oui.
En septembre, je me suis inquiétée dans la mesure où ils m'ont mis un taux imposable de 13,2%. Et là, mes revenus depuis janvier 2018, je perçois que ma retraite. Je me suis rendue au service des impôts et ils m'ont dit, écoutez, madame, on ne peut rien faire, venez en décembre. Je m'y suis rendue, ils m'ont dit, écoutez, là, pour le moment, on ne peut rien faire. J'ai dit, mais enfin, mon taux est à 13 et quelques pourcents. Ça va me faire au moins 200 euros de moins sur ma retraite. C'est inimaginable pour quelqu'un qui est célibataire, retraité.
Mmh.
Et ils m'ont dit, c'est comme ça. J'ai appelé la plateforme téléphonique. Ils m'ont dit la même chose. Alors moi, ce que je voudrais savoir, parce que là, ce que je sais maintenant, c'est qu'en fait, je vais devoir faire un courrier, mais qui ne sera traité que dans les 2 ou 3 mois. Ce qui veut dire que pendant 3 mois, je vais être imposée à 13,2%.
En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un système d'acompte, c'est ça, Laurent Benoudis, pour répondre à Martine, qui est un peu désemparée.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, Martine va payer sur un taux de 13% sur des revenus qui seront plus faibles.
Oui. Donc,
évidemment, elle va payer moins que ce qu'elle aurait dû payer par rapport aux revenus qu'elle avait eu avant. Par contre, le taux de 13%, lui, ne sera ajusté qu'au mois de septembre de l'année 2019, au moment où Martine aura déclaré en mai 2019, les revenus de 2018. Là, pour le moment, l'administration fiscale n'a connaissance que des revenus de 2017 qui étaient très élevés pour Martine. Donc,
c'est-à-dire que la situation sera compliquée pour elle pour les 6 mois prochains.
Après, on a la possibilité de moduler ce taux, mais ça ne sera ouvert qu'à compter du 2 janvier. Donc les premiers mois de l'année seront de toute manière impactés pour Martine. Et dans ce cas de figure-là, là, il n'y a pas de solution, effectivement, pour régler le problème de manière efficace, au moins sur les premiers mois de l'année.
Partie éventuellement des injustices qu'on soulignait, Martine.
Mais ce qu'il faut bien que Martine ait en tête, c'est qu'elle se fera rembourser.
De toute façon,
le trop payé.
Mais en attendant, il y a 8 mois un peu complexes.
Que le taux n'est pas encore adapté à la réalité de ses revenus d'aujourd'hui.
Voilà,
compte tenu
pour vous,
du fait qu'elle a perçu des revenus plus importants en 2017.
Si vous êtes rassurée à moitié, je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus.
Martine.
constaté que ma taxe d'habitation, qui était de 1100 euros, est passée à 1380 euros quand même. Alors, elle a été augmentée. Alors, je veux dire tout ce que... Voilà, ça fait beaucoup de choses. Bon, ben écoutez, ça confirme ce qu'on m'a dit. Donc, finalement, j'ai plus qu'à... Voilà, je... Je trouve quand même que le système est très mal foutu, entre guillemets, voilà.
Et ben, c'est un peu ce qui nous a réunis ce matin dans la première discussion, Emmanuel Le Chypre. Merci Martine. Voilà, système injuste, pas très lisible, mais il va falloir
s'y ranger. Ça fait partie des difficultés actuelles, c'est-à-dire cette complexité, cette instabilité fait qu'il y a un sentiment d'insécurité fiscale qui joue aussi dans le désarroi actuel.
Merci, merci à tous les deux et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir interrogés. Donc, vous avez compris, le contact avec quand même les agents du fisc dans les différents centres des impôts qui sont là pour vous guider à 25 jours de la mise en place de cette réforme et puis vos experts comptables aussi qui sont là pour vous éclairer. Vous les représentiez ce matin. Laurent Benoudis, merci. Et merci à Emmanuel Le Chypre, directeur de l'Observatoire BFM Business. Journée spéciale prélèvement à la source qui se poursuit.
Oui, jusqu'à 18h, vous appelez le 3921 et on vous rappelle.
Tous les experts mobilisés. On parle de Johnny Hallyday. Que reste-t-il de son esprit ? À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.